Je me suis attaché la dernière fois à montrer comment il est possible d'écrire l'histoire interne de l'orientation historique, histoire interne sans laquelle on ne peut rien comprendre, à mon sens, à ce qui s'est passé en Europe au cours des deux derniers siècles. On peut, bien sûr, reconstituer et décrire ce qui s'est passé, ce que les historiens font fort bien, mais on ne peut pas le rendre intelligible. La modernité autonome passe pour l'une de ses dimensions essentielles par une autre manière pour les sociétés de se déployer dans le temps. La temporalisation étant une donnée constitutive de l'être en société. Il y a société à partir du moment où il y a transcendance temporelle de l'organisation et de la culture collective par rapport à la successivité de ses membres. Ils naissent et meurent, nous naissons et nous mourons, notre société qui existait avant nous et dont nous avons dû acquérir les usages et les codes pour en devenir pleinement membres, continue après nous. Poussons même l'idée jusqu'au bout, elle existe pour autant qu'elle peut faire comme si nous n'avions jamais existé. Cette transcendance temporelle n'est pas une donnée naturelle, elle est même ce qui distingue radicalement les sociétés humaines de ce que nous pouvons connaître comme sociétés animales. Elle suppose un travail d'institution de tous les instants. Et bien de la même manière que nous avons vu qu'il y a deux manières et deux seulement de répondre au problème de la légitimation, ou bien la légitimation hétéronome par l'extériorité et l'antériorité du fondement, ou bien la légitimation par la réappropriation rationnelle du fondement sous forme de droits de l'homme. De la même manière, il y a deux manières et deux seulement de s'inscrire dans le temps pour les sociétés. Ou bien l'obéissance hétéronome au passé, ou bien l'invention autonome de l'avenir. C'est cette invention autonome qui représente la dimension la plus opaque, la plus déconcertante, en même temps que la plus grosse de conséquences directes de la structuration autonome. C'est elle que je propose d'appeler l'orientation historique, puisqu'aussi bien nous lui devons notre concept d'histoire et notre conscience historique. Sauf qu'il faut bien saisir, là est le piège, que l'orientation historique implique un dédoublement de la notion d'histoire. Il y a une histoire objective, peut-on dire, une histoire appréhendée de l'extérieur, qui s'inscrit à la suite de l'histoire qui avait cours auparavant. Pour reprendre le découpage universitaire, histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. Une histoire qui, vue du dehors, se contente, depuis deux siècles, d'ajouter de nouveaux épisodes à ce qui a précédé. Et puis, il y a une histoire subjective, peut-on dire, par contraste, une histoire qui se fait en connaissance de cause, au moins dans une certaine mesure, en fonction de l'orientation de l'activité collective vers la production de l'avenir. Ce qui change tout par rapport à l'histoire des changements qui avaient lieu antérieurement. Thank you. ce qu'il, c'est cela qu'il faut appeler une histoire interne de l'orientation historique. Une histoire de l'organisation collective en vue de l'invention du futur, qui, bien sûr, produit des effets externes, mais des effets externes qu'il faut rapporter à un ressort interne. Quand nous parlons d'histoire à propos de la modernité récente, nous parlons en fait de deux choses distinctes. De l'histoire en général, qui continue d'exister comme par devant et qui range nos sociétés exactement sur le même plan que celles qui les ont précédées, et nous parlons de l'orientation historique propre à notre société, dont c'est l'une des spécificités les plus saillantes. J'en prends un exemple très simple qui m'est tombé sous la main au hasard des lectures. Je l'emprunte à un livre récent d'histoire des sciences. Je cite « Entre les premiers temps de l'histoire, 5000 ans avant Jésus-Christ, passons sur cette assimilation de l'histoire à l'histoire de ce qu'on appelle les hautes civilisations, en fait les sociétés à état. Hein. Entre les premiers temps de l'histoire et le début du XIXe siècle, la connaissance s'accumule lentement, avec quelques à-coups. À partir du XIXe siècle, l'accumulation s'accélère brutalement jusqu'à devenir vertigineuse. » Parfaitement banal, mais vous voyez bien la différence entre une histoire externe, c'est le constat qui est formulé, en effet, vu du dehors, ça pousse doucement, et puis tout d'un coup, ça explose. Pourquoi ? Parce que le rapport interne à la connaissance a changé. C'est la disposition à l'égard des connaissances n'est plus la même, sa place s'est modifiée, les conditions de son usage se sont bouleversés, et du même coup, c'est ce qui se présente comme une accélération objective devient très compréhensiblement une amplification subjective de l'emploi des sciences dans le fonctionnement collectif. Ce dédoublement, remarquons-le, se retrouve sur tous les terrains de la modernité dans les trois éléments de la structuration autonome. Quand nous parlons du droit, nous parlons de deux choses différentes, nous l'avons vu, du droit au titre de la légitimité, du droit fondationnel, et du droit au titre de la légalité, le droit fonctionnel qui règle les rapports sociaux. Quand nous parlons de politique, nous parlons semblablement de deux choses différentes. Le politique, au titre duquel nos sociétés s'insèrent dans la longue suite des formes et des systèmes politiques, et la politique, dimension originale des sociétés modernes, liée à la production du pouvoir par représentation. Le problème spécifique de l'analyse des sociétés modernes étant dès lors celui des rapports entre ces volets distincts. Le droit fondationnel et le droit fonctionnel, le politique et la politique, l'histoire objective et l'orientation historique. Nous avons vu la dernière fois comment cette histoire interne de l'orientation historique est l'histoire d'une expansion par auto-amplification, l'histoire d'un approfondissement et d'un élargissement tout à la fois et inséparablement de l'action historique et de la conscience historique. Une histoire dont la variable centrale est l'accroissement auto-alimenté de la puissance du présent et de ses moyens de changement. Une histoire du compromis entre le moule hétéronome à l'intérieur duquel s'inscrit sur ce chapitre comme sur les autres le déploiement de la structuration autonome, en l'occurrence le compromis entre l'unité hétéronome des temps liée au principe de tradition, l'identité du passé fondateur, du présent et de l'avenir, et le compromis de cette identité des temps avec la différence des temps, la différence entre passé, présent et avenir, dictée par l'orientation historique. Compromis dont les expressions caractéristiques sont le principe pratique et théorique de continuité des temps et l'horizon de la fin de l'histoire. Nous avons vu les différentes versions que ces expressions ont revêtues, version conservatrice, version progressiste libérale, version révolutionnaire socialiste. La radicalisation structurelle de la modernité consécutive au tournant des années 1970 s'est traduite par la dissolution de ce compromis dans l'ensemble de ses manifestations. Voilà l'hypothèse qui me semble rendre compte des transformations spectaculaires de l'expérience historique qu'il nous est donné de vivre depuis 4 décennies. Toutes ces transformations gravitent autour de ce même foyer. C'est ce que nous allons tâcher de voir, ou commencer à voir aujourd'hui. La puissance du présent a franchi une nouvelle étape en l'emportant décisivement sur le poids du passé. Par où elle a défait ce compromis qui s'exprimait dans le principe structurant de continuité des temps. La différence des temps s'est imposée hors de toute expression immédiatement contraignante dans une unité dernière des temps. En bref, l'orientation historique s'est extraite entièrement du moule hétéronome. Pour la première fois, elle est à l'œuvre en tant que telle, dans l'ensemble de ses conséquences structurelles. Et on va voir qu'elles vont très loin. C'est là que réside la nouveauté de notre situation, intellectuellement et pratiquement. Il est commode de distinguer les deux versants, intellectuel et pratique, même s'ils sont inextricablement mêlés. Intellectuellement, la manifestation du tournant la plus sensible de manière immédiate a été la crise de l'avenir, parfaitement certifiée et descriptible dès la fin des années 1970. Par crise de l'avenir, entendons la disqualification des représentations de l'avenir sur lesquelles vivaient les grandes familles idéologiques. Le passéisme conservateur, le progressisme libéral, le révolutionnarisme socialiste. Et au-delà de cette disqualification, crise de l'avenir désigne la disparition de l'avenir comme horizon collectif en fonction duquel se définir, que ce soit sur le plan des aspirations politiques ou que ce soit sur le plan opérationnel de la de l'organisation, de la planification du mouvement vers l'avenir. Par rapport au futurisme intense qui avait été la marque distinctive du XXe siècle jusque-là, le siècle de l'avenir, en quelque sorte, après le siècle de l'histoire qu'avait été le XIXe siècle, la rupture a été saisissante et c'est le choc de cette rupture qui a accrédité sur le moment le diagnostic de postmodernité. D'un seul coup, en effet, et à une vitesse étonnante, l'ensemble de ces images et de ces idées de l'avenir qui semblaient dotées chacune d'une solide plausibilité ont cessé d'être croyables et même pensables. L'idée conservatrice d'une sagesse indépassable du passé à laquelle tout futur possible se devait d'être fidèle, une idée souvent rattachée à l'existence et à la persistance de la nation dans ses dernières versions, ainsi de l'idée de la France, une certaine idée de la France du général de Gaulle. Quoi que devienne la France, elle sera fidèle à cette idée d'elle-même forgée dans le cours des siècles. Idée conservatrice, idée libérale d'une avancée générale et progressive vers le mieux grâce à l'initiative des individus, en quête d'une amélioration de leur sort, du point de vue politique, cela impliquait de se donner comme priorité de préserver les conditions de cette libre initiative des individus, mais aussi bien l'idée socialiste d'une société radicalement différente de la société existante, contenue en germe dans les contradictions de la société existante et leur possible dépassement. Ce que résume très bien la formule fameuse d'Éluard, un autre monde existe, il est dans celui-ci. C'est l'ensemble de ce répertoire qui a été frappé brutalement de décroyance et d'obsolescence. C'est que derrière ces différentes figures de l'avenir, il y avait le principe structurant de continuité des temps, par-delà la différence obvie du passé, du présent et de l'avenir, différence inhérente à l'orientation historique. C'est la dissolution de ce principe de continuité qui a retiré leur plausibilité à ces images possibles du futur. On voit bien en quel sens. Non, il n'y a pas de continuité entre le passé et le présent qui mettrait ce passé en position d'instruire le présent et le futur, car le présent est gros d'une puissance de discontinuité et de nouveauté par rapport au passé qui rend vaines par avance les leçons que celui-ci pourrait nous administrer. Le rapport de force entre le poids des acquis du passé et la puissance d'invention du présent a basculé en faveur de ce dernier, au point qu'il n'y a pas de sens aussi bien à lire le présent comme un développement progressif des germes du passé, appelant des développement supplémentaire dans le futur. La puissance du présent frappe d'indétermination toute extrapolation continuiste en direction du futur. Elle invalide de la même manière la perspective d'un futur en forme de dénouement révolutionnaire du processus historique. En forme de dénouement et en forme d'une totalisation réconciliatrice livrant l'identité foncière du parcours humain et de ses différentes étapes dans son aboutissement final. La puissance du présent est porteuse d'une altérité du futur incompatible avec l'idée d'un simple dépassement, d'un simple renversement, d'un simple accomplissement du présent et de l'ensemble du passé. Par la même occasion, on le disserve aussitôt, cette dissolution du principe de continuité entraîne, au-delà des idéologies politiques, la disqualification des philosophies classiques de l'histoire. Elles sont frappées de nullité dans ce qui était leur schème constitutif. Nous l'avons vu, elles étaient à la base des philosophies du présent et très précisément des philosophies du privilège réflexif du présent. Des philosophies de l'accès de l'expérience du devenir générateur à la conscience d'elle-même, propriété au demeurant indiscutable du passage à l'orientation historique, sauf qu'elle donnait de cette conscience une interprétation abusive, en faisant la vérité du processus historique dans sa globalité. Comme si la réflexivité du présent livrait un fil conducteur pour comprendre le processus historique en son entier. Fil conducteur permettant d'une part d'annexer l'ensemble du passé humain comme conçu comme devant aboutir nécessairement d'une manière ou d'une autre à cette prise de conscience, et d'autre part fil conducteur permettant d'anticiper l'avenir comme épanouissement complet de cette conscience dans une totalisation réflexive clôturant le parcours humain dans une société en pleine possession d'elle-même grâce à cette science d'elle-même et de l'histoire qui a conduit jusqu'à elle. Après, sur cette trame commune, il y avait de multiples variations possibles selon les éléments qu'on voulait privilégier dans ce parcours. La science positive chez Auguste Comte, la raison chez d'autres, la liberté chez Spencer, la justice chez Marx. Mais le schème président à la construction était, lui, invariable. C'est ce schème qui s'est désintégré sous l'effet de l'affirmation de la puissance du présent et de la dissolution consécutive de la continuité obligatoire entre passé, présent et avenir. Plus de totalisation possible, concevable, du processus historique à partir de la conscience du présent. Conscience du présent qui se trouve relativisée de l'intérieur. Désarrimage du passé vis-à-vis du présent, qui ne saurait être compris comme son aboutissement. Impossibilité symétrique de passer du présent à l'avenir. Évacuation de la perspective d'une réflexivité totale comme terme de l'histoire, dit dans une société qui se saurait enfin pour ce qu'elle est et maîtriserait son organisation de part en part. Toutes ces idées qui ont mobilisé les meilleurs esprits et représenté le fin du fin de la pensée pendant plus d'un siècle et demi, se sont littéralement volatilisées jusqu'à devenir spontanément inintelligibles pour la grande majorité de nos contemporains. Elles ont d'un seul coup perdu leur sens. Disparu de l'horizon du pensable et du croyable. Il y a quelque chose de libérateur dans cette implosion. On y reviendra. Il y a quelque chose aussi, il faut le souligner dès à présent, d'éminemment problématique. Lorsqu'elle conduit, comme c'est le cas, à un enfermement dans le présent. Présent passé comme autosuffisant et indifférent à la question de son propre sens. Nous sommes à cet égard tombés de Charybde en Scylla. Ce n'est pas d'ailleurs le moindre aspect de la crise de la démocratie. Je me contente pour le moment de soulever la question de ce qu'un certains types bien définis, comme on a vu, de grands récits, selon l'expression consacrée, est mort et enterré, suit-il que nous pouvons faire l'économie d'un grand récit, en général, s'il faut reprendre ce terme. Ou pour mieux dire, pouvons-nous faire l'économie d'une pensée de l'histoire immunisée à l'épreuve de l'expérience contre les défauts de ses premiers essais? Il y a au moins lieu de se poser très sérieusement la question. Mais avant d'y venir, il faut achever le bilan de notre tournant et de la situation qu'il nous assigne. En même temps que ces conceptions élaborées du processus historique, c'est l'expérience de l'histoire au niveau le plus humble, le plus familier, qui a été affectée par la dissolution du principe de continuité. Ce qui a été affecté, on pourrait l'appeler la perceptibilité de l'histoire, ce qui en faisait une donnée palpable de l'existence quotidienne. Elle se manifestait dans le sentiment, plus ou moins clair chez les acteurs, d'être pris dans un processus qui se poursuit autour de vous et au travers de vous et qui vous assigne des contraintes très précises. Ainsi, l'obligation de lier son action en direction de l'avenir au passé dont le présent procède. En envisageant, consciemment ou inconsciemment, ce qui doit passer de cette inspiration du passé dans le présent et dans le futur. Inspiration du passé que le présent transforme dans l'avenir auquel on travaille, mais qui incorporera de nécessité un élément de continuité avec le passé qui est derrière vous. Cela voulait dire un régime de l'action puissamment déterminé, tel que l'on ne pouvait que se sentir, si confusément que ce soit, acteur de l'histoire encore en cours. C'est cette liaison organique avec le devenir en marche qui a disparu. Certes, intellectuellement, nul ne doute de s'inscrire dans quelque chose qui compose au final quelque chose comme une histoire, comme somme des actions, interactions, événements qui se produisent. Mais l'histoire a cessé d'être un processus perceptible informant l'existence des acteurs, définissant leur identité à leurs propres yeux et donnant du sens à leur conduite. Ce qui existe en fait d'histoire, qui compose la toile de fond du monde où nous évoluons, ne nous dit rien de ce que nous faisons et avons à faire, à tel point qu'on peut royalement l'ignorer pour s'orienter dans l'existence collective, en renvoyant la résultante de ce processus cumulatif à l'examen de ceux que cela amuse. Nous sommes revenus d'une certaine manière à l'indifférence des sociétés de tradition pour la connaissance historique. La connaissance historique est redevenue pour nos acteurs sans histoire, sur le plan de leur conscience d'acteur, une curiosité marginale. Pour rendre sensible l'ampleur des effets de cette dissolution de l'unité des temps, j'en prends une illustration privilégiée. Sous sa forme pratique d'impératif de continuité à maintenir au milieu de l'orientation historique, il avait un point d'application exemplaire dans le domaine de l'éducation. Il en était la colonne vertébrale. Nous avons déjà croisé le sujet. L'idée moderne d'éducation et le développement de la société scolaire sont intimement corrélés à la sortie du principe de l'ordre de la tradition et à la pénétration du point de vue du devenir générateur. L'enfant lui-même, la cible du processus éducatif, se met à être perçu dans sa différence d'enfant en tant qu'être pour l'avenir. Et il s'agit de l'élever, de l'instruire, de le former en tant qu'ouvrier de l'avenir. Plus l'orientation historique s'approfondit, plus l'exigence éducative grandit. C'est l'une des dimensions de la puissance du présent. Mais ce développement jusqu'à notre tournant va s'effectuer sur fond de cet impératif de continuité des temps qui va durablement façonner à la fois la forme et le contenu de cet effort éducatif. Il est commandé par la perspective de la relève des générations. Il s'agit de faire en sorte que la génération nouvelle dispose du stock des acquis de la génération en place, stock qu'elle aura à prolonger, à changer, à transformer, mais dont il faut qu'elle commence par avoir la maîtrise. D'où le caractère éminemment collectif de cette entreprise, entreprise explicite, délibérée de transmission, où il y va de la perpétuation de l'expérience commune. D'où l'aspect d'imposition autoritaire et de pression sociale qu'elle tente à revêtir. D'où aussi bien l'accent porté sur les humanités, puisqu'il s'agit précisément de cultiver ce sens de la continuité historique chez les jeunes générations, en même temps que le sens des responsabilités qui lui reviennent au regard des tâches qui l'attendent. Aussi, la dissolution du principe de continuité s'est-elle traduite par une rupture culturelle majeure dans les systèmes éducatifs. Leur philosophie tacite a été bouleversée de fond en comble. Cet impératif structurant de transmission à caractère collectif a perdu toute signification. Il ne veut plus simplement rien dire. L'entreprise éducative s'est radicalement décollectivisée. Son objet n'est plus compris sous le signe de la relève des générations, mais de la formation des individus, avec d'ailleurs de nouvelles divisions de concevoir cette formation des individus entre épanouissement personnel et constitution d'un capital individuel. C'est l'une des tensions fortes qui travaillent les systèmes éducatifs d'aujourd'hui. Il ne s'agit plus tant, dans tous les cas, de former les membres d'une communauté historique que de développer les moyens d'une individualité. Pédagogiquement, l'accent s'est déporté de la démarche de transmission, guidée par la perspective de ce qu'il était tenu pour objectivement nécessaire de savoir, au regard de la génération en place, adulte, vers l'acte d'apprendre, vers l'activité d'acquisition, vers l'appropriation subjective des connaissances guidées par les motivations personnelles des élèves. Aussi bien, enfin, n'est-ce plus le sens des liens avec le passé et le sens de sa propre inscription dans le devenir qu'il s'agit de cultiver chez les jeunes générations, mais la capacité d'action. Les compétences utilitaires ont logiquement pris le pas sur les vénérables humanités. C'est à cette rupture dont je me borne à évoquer les grands traits qu'il faut rapporter les problèmes nouveaux qui se posent dans le domaine de l'éducation. Ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus peuvent se reporter, je me permets d'y renvoyer, au livre que nous avons consacré à la question avec Marie-Claude Blais et Dominique Ottavi, qui s'intitule justement « Transmettre, apprendre ». Nous entrevoyons sur cet exemple combien la dimension intellectuelle ne se sépare pas de la dimension structurelle. En l'occurrence, le statut des individus et l'articulation individuelle collective. Il faut dire quelques mots de plus à propos de cette dimension structurelle afin d'avoir tout de suite une idée plus complète du bouleversement idéologique entraîné par la dissolution du principe de continuité dont la crise de l'avenir n'est qu'une des faces. La dissolution du principe de continuité a pour corréla la dissolution de la primauté du collectif matérialisée en dernier ressort dans l'État, avec ce qu'elle impliquait de subordination maintenue de la société civile. Elle s'accompagne de l'autonomisation en règle de la société civile, autrement dit, de la consécration du fait libéral et de la structure libérale de la société de l'histoire. En quoi elle tranche une fois pour toutes le débat entre les trois idéologies fondamentales qui se poursuivaient depuis leur formation. La confrontation de ces trois idéologies tournait au plus profond autour de la nature et du possible dépassement de cette structure libérale. Dépassement soit du côté conservateur par le renforcement de l'autorité de l'État, de manière à rétablir un ordre social hiérarchique au travers de la claire et ferme subordination de la société. Dépassement du côté socialiste par la propriété collective ou le contrôle public des intérêts privés, de manière à dépasser la division entre propriétaires et non-propriétaires et à établir sur cette base la justice sociale. Il faut mesurer la portée de rupture de l'événement sur le plan intellectuel et idéologique. Cette discussion centrale, la discussion qui a occupé nos sociétés politiques depuis le milieu du XIXe siècle, de façon tout à fait claire, cette discussion centrale a été réglée par l'expérience historique. C'est le fait politique majeur du moment et la source de la confusion noire où nous évoluons. Il n'y a pas de dépassement concevable de l'indépendance de la société civile par rapport à l'État dans le cadre de la société de l'histoire. Elle lui est inhérente. Cela veut dire que si nos trois idéologies sont affectées, comme on vient de le voir, dans la vision de l'avenir sur laquelle elles se reposaient, deux d'entre elles, le conservatisme et le socialisme, sont de surcroît invalidés dans ce qui constituait leurs prétentions essentielles. Cela ne les condamne nullement à la disparition, on m'empresse de le dire, car les valeurs dont elles se réclament conservent leur ancrage dans la vie collective, mais elles sont privées de ce qui assurait leur plausibilité opérationnelle. On ne sait pas bien se réclamer de l'idée conservatrice, mais on ne sait pas comment la matérialiser. On peut bien se réclamer de l'idée socialiste, mais on ne sait pas comment y aller. Les valeurs d'ordre ou de justice qui justifient l'existence du conservatisme ou du socialisme sont intactes, mais elles n'ont plus à leur disposition de moyens crédibles de les atteindre ou de les réaliser. Aussi bascule-t-elle en position dominée, idéologiquement parlant, ce qui ne veut pas dire nécessairement politiquement parlant. L'articulation des deux plans est autrement complexe. Elle bascule en position dominée par rapport à un libéralisme qui se trouve relancé par cette disqualification de ses rivaux. Mais un libéralisme qui subit en même temps une mue radicale par rapport à son contenu classique. C'est en fonction de ce même foyer que l'on saisit ce qui va différencier le néolibéralisme actuel du libéralisme traditionnel. Le libéralisme traditionnel, celui des grands auteurs du XIXe siècle, s'il défendait l'indépendance de la société civile et la liberté d'initiative des acteurs privés, insérait celle-ci, d'une part, dans le cadre d'un progrès global, sous différentes versions, et d'autre part, politiquement parlant, à l'intérieur d'un primat maintenu de la communauté nationale. C'était un libéralisme de l'histoire et de la nation. Le progrès économique dans cette vision, c'est-à-dire la dynamique de l'accroissement des richesses, ne se séparait pas, pour ce libéralisme traditionnel, on en a une multitude d'expressions, de la diffusion de ce progrès à l'ensemble des aspects de la vie collective. Ce qui l'ouvrait assez naturellement à une dimension sociale et redistributrice. La meilleure illustration s'en trouve chez les nouveaux libéraux, comme on les appelait, anglais, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, dont Keynes et Beveridge auront été les ultimes et les plus remarquables figures. Quand on oppose Keynes et Hayek, comme c'est une banalité, on oublie le détail que Keynes était aussi un libéral. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé entre les deux. Et Beveridge aussi. Ça n'est même pas un travailliste britannique, modéré. C'est une figure de proue du parti libéral anglais et un théoricien du libéralisme de certains égards. De la même façon, pour ce libéralisme classique, l'économie était politique au sens fort du terme. En ceci, quel était, si privé qu'on souhaitait la conserver, en ceci, qu'elle était ultimement au service d'un intérêt collectif prééminent. Ce qui ouvrait par ailleurs assez naturellement le libéralisme à une alliance avec la préoccupation conservatrice de la primauté du politique au nom des intérêts supérieurs de la nation et de l'ordre social. C'est cette alliance, du reste, qui a constitué l'expression politique principale du libéralisme dans l'expérience européenne des deux derniers siècles. Tout près de nous, le gaullisme français de la Ve République en a été une incarnation exemplaire. Le néolibéralisme est en rupture complète avec cette tradition. Sa marque la plus distinctive est la dissociation de l'économie tant de la perspective d'un progrès global, qui ne signifie plus rien pour lui, que de l'inscription dans des communautés nationales qui ne représentent qu'un héritage résiduel aux yeux des plus conséquents de ses partisans. En quoi, d'ailleurs, on saisit tout de suite le lien étroit qui unit ce néolibéralisme avec la mondialisation. La mondialisation a un bout et l'individualisation juridique de nos sociétés à l'autre bout. C'est la combinaison des deux, mondialisation-individualisation, qui fournit le levier de cette extériorisation de l'économie par rapport à la vie des sociétés. Une économie qui devient antipolitique, en ceci que sa dynamique est explicitement conçue sous le signe d'une nécessaire émancipation vis-à-vis des contraintes du politique, de la forme État-nation. On pourrait d'ailleurs ramener le programme néolibéral à cette simple proposition qui emporte beaucoup de conséquences, libérer l'économie des États-nations. On en voit quotidiennement l'écho dans nos débats sur la fiscalité, etc. Libérer donc l'économie des contraintes des États-nations et d'autre part subordonner la politique, ramener à l'expression représentative des sociétés aux besoins de la dynamique économique. Le néolibéralisme représente ainsi une lecture radicale et même hyperbolique du fait libéral et du renversement libéral qui non seulement vise à donner tout le pouvoir à la société civile, mais va même plus loin en brouillant, voire en anéantissant l'idée même de société civile et de société tout court. D'une part en la dissociant du politique, d'autre part en la réduisant de fait à la sphère économique. à la sphère économique et aux relations marchandes ou de type marchand entre individus. C'est en la poussant à ces dernières conséquences que l'on mesure à quel point cette lecture du fait libéral tourne à l'aveuglement sur ce que sont réellement les sociétés et sur ce qui les fait fonctionner. Ce qui veut dire aussi qu'il y a place pour d'autres lectures du fait libéral. La consécration du fait libéral ne signifie aucunement le triomphe final et irrévocable du néolibéralisme. Celui-ci a exploité une conjoncture historique dont il est d'ailleurs innocent et bénéficié d'un effet de surprise qui a pris ses rivaux à contre-pied. Mais il y a tout lieu de penser qu'il touche aux limites de son règne. Encore faut-il que conservateurs et socialistes prennent la mesure de la situation qu'il aurait faite et du travail de reconstruction qui s'impose à eux. L'idée socialiste en particulier, puisque conservatisme et socialisme ne sont pas dans la même position, comme le faisait ressortir à juste titre un jeune homme qui a été notre étudiant ici. Le conservatisme, c'est l'instinct de conservation. Le socialisme, c'est l'idée socialiste. C'est très différent du point de vue des perspectives pratiques de fonctionnement des idéologies dans la société. L'idée socialiste, en particulier, est à rebâtir de fond en comble. Puisque, encore une fois, le socialisme, c'est l'idée, c'est l'ambition d'une explication rationnelle, sinon scientifique, de la société et la possibilité d'un gouvernement maîtrisé des sociétés selon cette explication, condition pour qu'on puisse la définir comme juste. L'idée socialiste est à rebâtir en intégrant ce caractère indépassable de la structure libérale de la société de l'histoire. Intégration qui laisse largement ouverte la question des manières d'aménager et de répondre à ce fait libéral. On aura l'occasion d'y revenir. J'esquisse rapidement ici ces perspectives, simplement afin de faire ressortir notre point principal. La distinction capitale à opérer entre fait libéral et lectures idéologiques du fait libéral. Si consécration du fait libéral il y a eu, si cette consécration a entraîné un bouleversement du champ idéologique qui a donné temporairement un avantage décisif au néolibéralisme, il ne s'ensuit nullement que, pour commencer, le pluralisme idéologique des sociétés de l'histoire est derrière nous au profit d'un néolibéralisme monocolore, avec juste des nuances de droite et de gauche, et il ne s'ensuit nullement ensuite que l'hégémonie néolibérale soit destinée à durer, si forte qu'aient été ses raisons de s'installer. Elle est même en passe de se clore, à mon sens, sauf que l'effort intellectuel pour l'analyser et y répondre n'a pas été fait. pour de profondes raisons, là aussi, qui touchent à la crise de la démocratie que nous essayons d'identifier. Pour l'un de ses principaux aspects, cette crise de la démocratie est à base de démission intellectuelle. Et il faut comprendre pourquoi. À cet égard, l'analyse des manifestations de la radicalisation de l'orientation historique va nous permettre d'avancer un peu. Cette radicalisation se traduit donc par la dissolution du principe de continuité qui faisait que la relation au passé, la relation au présent, la manière de comprendre et d'habiter le présent, la relation à l'avenir restait intellectuellement et opérationnellement liée. La condition de l'acteur historique résidait dans ce lien. L'une reconduisait automatiquement à l'autre avec de puissants effets. De cette dissolution, il va résulter une dissociation de ces trois relations, en même temps que leur transformation interne. Elles s'autonomisent les unes vis-à-vis des autres, en se redéfinissant chacune. Il en sort un système des temps sociaux d'une grande cohérence objective, mais caractérisé subjectivement par ces acteurs, pour ces acteurs, par le clivage entre rapport au passé, vie au présent et projection dans l'avenir. Cela se résume en trois mots: patrimonialisation du passé, médiatisation du présent, économicisation de l'avenir. Le tout toujours en fonction de la variable centrale à ne jamais perdre de vue, qu'est la puissance du présent, le pivot de l'orientation historique. À cet égard, le tournant des années 1970, dans l'évolution du rapport de force, pour le dire simplement, entre poids du passé et puissance du présent, ce tournant peut être regardé comme le moment de la prise de pouvoir par la capacité de transformation du présent. L'orientation historique en vient à se définir comme potentiel opératoire de discontinuité vis-à-vis de l'ensemble du passé. Les axiomes tacites en fonction desquels elle se déploie deviennent, d'un côté, dans le principe, il n'est rien de l'acquis et de l'héritage du passé dont il ne soit justifié d'envisager la transformation. Et de l'autre côté, en pratique, il n'est rien qu'il ne soit effectivement possible de changer. Inutile d'aller chercher plus loin le secret de l'évanouissement de la perspective révolutionnaire, j'y reviens un instant, cette perspective révolutionnaire reposait ni plus ni moins sur le report dans le futur de cette puissance de transformation totale, puissance en train de grandir, mais non encore actuelle. Et elle se donnait en même temps comme la perspective d'une pure ressaisie de la société par elle-même, dans le rassemblement de ses forces et l'appel de la société contre elle-même et son ordre actuellement existant. Eh bien, envoie le son. D'un côté, cette puissance est rapatriée dans le présent, comme puissance à l'œuvre ici et maintenant, puissance totale de transformation, et de l'autre côté, ce faisant, à l'opposé de la figure d'une ressaisie collective, elle se présente comme dispersée dans une myriade d'initiatives impossibles à totaliser. De la part d'acteurs, tous fondés à se poser comme auteurs du changement. La consécration de la puissance du présent, autrement dit, s'accompagne de l'individualisation radicale de l'action historique et corrélativement de l'assimilation du processus historique comme processus collectif à une résultante d'une agrégation automatique, autrement dit à un marché. Une dimension que nous allons retrouver à propos de l'économicisation du rapport à l'avenir. Il s'ensuit, en tout cas, une reconfiguration complète du rapport au passé. Plus question de chercher à en prolonger l'inspiration ou à l'accomplir. Il ne s'agit plus de se tourner vers lui pour y déchiffrer un sens permettant de s'inscrire en continuité avec lui. Pourtant, le passé n'est nullement oublié ou nié. Bien au contraire, nous sommes plus que jamais dans une société de l'histoire qui se sait dépendante de l'œuvre du passé. Elle se sait reposer sur son acquis. Sauf que cet acquis est sans signification vivante du point de vue de l'action historique. Il ne nous dit rien de ce que nous avons à faire en direction de l'avenir. Il ne nous dicte rien, il ne nous oblige en rien. Nous sommes libres à son égard. C'est ce double rapport de dépendance et de distance que vient concrétiser la patrimonialisation des attestations du passé. Dépendance totale et distance totale. Voilà la formule du rapport patrimonial au passé. Dépendance totale, l'élargissement de la conscience historique, l'élargissement de la conscience de ce que le monde humain se produit de part en part et dans sa totalité au fil du devenir, se traduit dans l'extension du souci de conservation à l'ensemble des vestiges, témoignages, traces, attestations du passé, y compris le passé tout proche. Nous avions évoqué rapidement, le fait bien connu, comment l'émergence de la conscience historique au début du XIXe siècle s'était rapidement traduit dans la mise en place de politiques de conservation de ce que l'on appelait à l'époque les monuments historiques. Sélectionnés pour leurs qualités exceptionnelles, et valorisé en grande partie pour leur antiquité. Notre patrimoine d'aujourd'hui se refuse à cette sélection qui semble relever au-delà de aux yeux de la conscience patrimoniale ordinaire comme un vandalisme. Il retient l'objet le plus humble, le plus quotidien, la petite cuillère, comme on a pu dire, comme l'œuvre la plus rare. Il se soucie du sort et de la transmission aux générations futures de la masure la plus misérable comme du palais le plus somptueux. Il absorbe le plus récent, la raffinerie de pétrole, comme le plus éloigné. Le patrimoine est totalisant en ceci qu'il est là pour matérialiser la conscience que tout du monde humain est historique et fournir une sorte de socle objectif à l'invention potentiellement totale de ce monde humain qui se joue dans le présent. La présence du passé dans le présent est donc ainsi plus que jamais reconnue au travers de cette obsession patrimoniale, mais sur le mode d'une objectivation qui le met radicalement à distance. Comme un passé mort du point de vue de sa signification. À cet égard, le passé patrimonialisé est le symétrique inverse exact du passé de la tradition, qui était supposé vivre dans le présent de telle sorte que personne ne se souciait de sa conservation ou de sa connaissance exacte. Tout ce qu'il y avait à en savoir était à l'œuvre ici et maintenant. À l'opposé, notre souci de conservation est fonction d'une objectivation qui vide les attestations du passé de toute portée ou valeur d'instruction pour le présent. Cette démarche d'objectivation des attestations du passé a en même temps pour contrepartie une annexion du passé par le présent, du point de vue de sa signification. Le sens de ce passé objectivé est ce que le présent veut en faire. C'est l'autre versant de notre liberté à son égard. C'est ce qui se manifeste exemplairement dans la commémoration, qui constitue le double de la démarche de patrimonialisation. Elle en est le rituel associé. À l'inverse, de nouveau, du rituel religieux du monde de la tradition, qui est actualisation de l'origine, confirmation de l'assujettissement du présent aux modèles ancestraux, la commémoration est appropriation du présent appropriation du passé, pardon, aux besoins du présent. Expression osons le mot, de la toute-puissance du présent sur le passé, dont cependant le présent dépend. Il s'ensuit d'intéressantes contradictions dans la conscience historique et dans le travail des historiens. Déchiré entre l'établissement de la différence du passé et cette satellisation du passé par le présent. Nous n'en sommes à cet égard qu'au début de ce qui prendra, j'en suis convaincu, l'allure d'une bataille intellectuelle, d'une guerre civile, sur le terrain de ce que doit recouvrir l'écriture de l'histoire. La vérité du passé ou l'image du passé que le présent voudrait cultiver. Pour le moment, nous flottons dans un entre-deux discrètement polémique, mais je n'ai pas de doute que la contradiction est destinée à éclater au grand jour. Pour reprendre là aussi un exemple sensible, rien de plus parlant à l'égard de cette satellisation du passé par le présent que ce qu'il est convenu d'appeler le refus de la téléologie dans l'exposition, la présentation, la mise en scène des vestiges ou des attestations du passé. Ce principe antitéléologique est devenu le catéchisme ordinaire de la muséographie avancée. Vous en connaissez tous les effets. Il pousse à rejeter toute inscription et présentation des œuvres ou des objets du passé selon un déroulement chronologique supposé esclave d'un grand récit au risque de référence, de telle sorte qu'il s'agit de rapprocher et de faire voisiner ces objets ou ces œuvres selon des critères fonctionnels, esthétiques, dictés en fait par l'optique actuelle sur le domaine concerné. On ne saurait mieux marquer le souci d'éviter une continuité entre passé et présent. Continuité qui contraindrait le présent. Continuité qui marquerait que le passé se poursuit dans le présent, selon la ligne de cette continuité illustrée par la continuité du déroulement dans lequel s'inscrivent ces attestations. Le passé se voit ainsi transformé en un bric-à-brac, appelons les choses par leur nom, sans signification intrinsèque autre que celle que nous voulons bien lui donner. Il est entièrement assujetti dans son exploitation et sa monstration au regard et aux usages du présent. C'est le nouveau vandalisme du présent au regard de la signification du passé. Quelques mots d'introduction juste à propos de notre point suivant que je développerai plus complètement la semaine passée, mais quelques mots qui... La semaine prochaine, pardonnez-moi. Il est temps que j'arrête. l'orientation dans le temps est toujours, vous le savez, une matière très délicate à traiter. La médiatisation du présent, donc. C'est quelques mots juste pour marquer la cohérence de ces transformations qui gravitent autour du même foyer. Depuis le départ, la conscience historique, qui est d'abord, revenons-y toujours, conscience du devenir en train de se faire, avant que d'être conscience du passé éloigné. Cette conscience historique a suscité, depuis le départ, un intérêt et une interrogation sur la marche des événements en cours. La conscience historique, de ce point de vue, c'est autant et sans doute davantage, du point de vue du poids des choses, le journalisme au présent que les sciences historiques. Les journaux ont plus de lecteurs que les ouvrages historiques. La conscience historique a son attestation par excellence dans ce besoin de suivre et de comprendre la marche du devenir. C'est en ce sens qu'il faut rappeler la phrase fameuse de Hegel, la lecture du journal quotidien et la prière du matin du philosophe. Du philosophe qui sait que l'histoire existe. Il pouvait s'en passer auparavant. Cette attention au présent comme histoire en train de se faire n'a cessé de grandir avec l'expansion et l'approfondissement de l'orientation historique. Elle a donné naissance, fin 19e, début 20e siècle, à la sphère de l'actualité, devenue un temps historique à part entière. Si le présent psychologique est insaisissable, comme on le sait depuis longtemps, en revanche, le présent historique, lui, a la consistance de l'actualité, qui est une séquence particulière de l'expérience historique. Sphère de l'actualité à laquelle le développement des médias de masse au XXe siècle, la radio puis la télévision, n'ont cessé d'ajouter de la consistance et de l'importance dans le fonctionnement des sociétés. La radicalisation de l'orientation historique liée à notre tournant des années 1970 a entraîné une étape supplémentaire en la matière, en faisant de cette présence à l'histoire en train de se dérouler une dimension constitutive de l'existence collective et probablement l'un des modes de socialisation les plus puissants de notre monde. montée en puissance qui a eu pour effet, c'est ce que nous tâcherons d'explorer la fois prochaine, d'enfermer l'expérience historique dans les limites du présent. La seule attestation de l'histoire est celle qui est en train de se faire. Ni celle du passé patrimonialisé, ni celle qui se joue en direction de l'avenir, n'ont de visage assignable hors de cette sphère médiatisée qui absorbe l'intégralité de ce qui subsiste de conscience historique dans ce nouveau cadre des temps sociaux. Et nous verrons là qu'à cette croissance naturelle, il faut, pour avoir toutes les conséquences du phénomène, il faut ajouter une dimension supplémentaire qui est que, non contente de concentrer la conscience historique dans le présent, elle a concentré également toute la dimension de l'idée dans nos sociétés. Part extrêmement importante du fonctionnement collectif que nous tendons à ne plus percevoir du fait même de cette absorption dans la médiatisation du présent. C'est pourquoi c'est une chose qu'il s'agit de démêler avec une grande précision, car je crois qu'elle est l'une des clés de cette situation qui nous transforme en spectateurs d'une histoire dont nous sommes les auteurs, mais des spectateurs qui oublient constitutivement qu'ils sont les auteurs de cette histoire dont ils sont les spectateurs. C'est, d'une certaine manière, le dilemme de base qui justifie de parler d'une crise très particulière de la démocratie.
Je voudrais revenir sur peut-être un point un peu secondaire. Vous avez dit à un moment donné que le patrimoine aujourd'hui se refuse la sélection. C'est tout à fait vrai. Il y a une explication qui est que comment faire la sélection ? Voilà. Nous connaissons tous.
Non, alors.
Exactement, parce que les goûts changent.
Non, le mot de sélection est employé trop vite. La question, il est très facile de dissiper l'équivoque parce que j'ai parlé trop vite et sans un souci suffisant du détail. Bien entendu, la sélection est obligatoire parce que le volume est immense. Donc, il y a toujours une sélection en réalité. C'est une sélection par échantillonnage. Quand vous lisez l'inventaire du patrimoine, je vous renvoie au livre que Michel Melot a consacré à la chose il n'y a pas longtemps. C'est impressionnant, effectivement. Donc, si on conserve toutes les statues de la Vierge Marie qui sont inscrites à l'inventaire du patrimoine, je veux dire, ça devient absolument vertigineux. Et alors, encore s'agit-il là de témoignages du passé profond, mais les buildings sous-développés des architectes récents, il y en a beaucoup, on a intérêt à les sélectionner, parce que allez bien les sélectionner, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont certes des témoignages d'un moment de la conscience collective, mais enfin, on peut en garder une proportion restreinte. Dans le paysage urbain, je pense que personne n'en souffrira, à part leurs auteurs. Pas tous. Donc, il y en a beaucoup qui sont inscrits. Comme vous savez, c'est devenu... Cette dilatation a entraîné une complexité des catégories dont je ne suis pas un spécialiste, mais qui fait qu'il y a des degrés dans le souci de conservation. Donc, on échantillonne forcément. Mais l'important... C'est l'autre sens du mot sélection. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objet, d'œuvre, de construction, de vestiges, de documents, indigne par principe de conservation. C'est, vous voyez, il y a les deux. On ne va pas conserver tous les tire-bouchons au musée du tire-bouchon, ça existe. Mais mais on prend des juges. Il faut s'entendre sur l'expression. Il y a sélection, mais il n'y a pas sélection construite, comme c'était le cas à l'époque du monument historique défini par Guizot et le comité des travaux historiques. Il n'y a pas de sélection construite sur « voilà des objets dignes d'être conservés, voilà des objets dont on peut considérer qu'ils ne comptent pas dans l'expression de l'historicité digne de mémoire ». Il est, par principe, il n'est pas d'objet le plus quotidien, de document le plus quotidien. Hein. On conserve des échantillons de contraventions. Parce qu'après tout, cet exemple-là, je le cite au hasard à côté de bien d'autres, mais oui, en effet, les pouvoirs de police dans une société, ça compte, la forme qu'ils revêtent. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est la déhiérarchisation des attestations du passé, qui est la bonne formule que j'aurais dû employer. C'est là-dessus que la non-sélection porte. Pas sur le fait que, objectivement, on élimine une grande quantité de vestiges du passé.
Dans ce que vous dites, je trouve qu'il y a des choses moi, qui me parlent beaucoup par rapport au cinéma. Vous n'avez pas parlé justement du.
Je ne peux pas parler de tout là, je veux.
Non, mais tout à fait, mais c'est certainement à la lueur de ce que vous venez d'avancer, on peut peut-être expliquer la disparition du cinéma. Enfin, moi, ce que je pense comme disparition actuelle, qui est complètement contaminée, si vous voulez, par la télévision, par les images vidéo, et qui a fait disparaître une forme de cinéma qui tentait de s'inscrire dans l'histoire, justement, tenter de faire voir l'histoire, me semble-t-il, mais c'est à discuter, parce qu'effectivement, on ne peut pas, selon moi, être à la fois auteur et spectateur, en tout cas, en même temps, c'est impossible, et voilà, il y a quelque chose que je trouve très fructueux là, dans votre travail sur l'histoire et la disparition de cette histoire, et surtout la disparition de l'idée,
Non mais de toute façon le phénomène de déhiérarchisation est absolument central dans la conscience esthétique contemporaine au sens très large, bien au-delà du cas du cinéma. C'est même l'un des principes de base de la transgression propre à l'art contemporain. C'est-à-dire, l'art a eu dans son histoire une association fondamentale avec le principe hiérarchique. Il est du côté du haut, sublime, y compris, par exemple, dans les matériaux qu'il emploie. L'art médiéval, par excellence, c'est l'orfèvrerie, parce qu'il travaille sur les métaux les plus précieux, les pierres les plus précieuses. Donc, c'est le trésor des églises. Et l'histoire de l'art sur la longue durée, c'est l'histoire d'une déhiérarchisation des matériaux qui, aujourd'hui, dans l'art contemporain, prend une expression radicale. La serpillière et combien d'autres. Il n'y a pas de hiérarchie des matériaux. Bon, mais il y a de la même façon une déhiérarchisation des niveaux d'expression artistique.
Est-ce que vous avez parlé du néolibéralisme et de la dissociation comme dissociation de l'économie et de la politique? Dans quelle mesure est-ce que ce mouvement, qui a à peu près 30 ans maintenant, est-ce qu'on peut le rattacher à un mouvement bien antérieur au fin 19e, à l'école autrichienne? Est-ce que disait par exemple Bumbaver que les lois de l'économie sont beaucoup plus importantes que les lois de la politique, doivent dominer les lois de la politique idéologique pour l'Allemagne? Dans l'idéologie de la Bundeswehr, par exemple, et qu'on peut ramener aussi à l'état de mort au XIXe siècle.
Il faut faire très attention sur ce terrain aux termes qu'on emploie. Je crois, au contraire, que la Bamberg et d'autres représentants de cette école autrichienne, dont l'inspiration va se prolonger effectivement dans ce qu'on a appelé l'ordolibéralisme allemand, c'est pas du tout l'idée d'une indépendance complète de l'économie par rapport à la structure politique. C'est l'indépendance de l'économie à préserver à l'intérieur du cadre politique. Ordolibéralisme, c'est ça exactement ce que ça veut dire. À l'indépendance parce que si on ne laisse pas, en fonction du critère d'efficacité, si on ne laisse pas l'économie jouer librement, elle n'est pas efficace. L'optimum collectif suppose qu'on laisse librement fonctionner la sphère économique, mais à l'intérieur d'un cadre politique qui précisément a la responsabilité très forte et très importante de préserver ces règles qui permettent le bon fonctionnement de l'économie. Donc là, on reste dans un cadre où non seulement la fonction de la politique n'est pas réduite au minimum, mais où elle est constitutive de ce qui permet le bon fonctionnement d'une économie dynamique et bien régulée. Alors, toute la question, donc, vous voyez, indépendance, mais par rapport à quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut laisser le mécanisme économique jouer librement. Oui, mais dans sa sphère et en vue d'un optimum collectif. C'est sur ce point que l'indépendance prônée par les néolibéraux, essentiellement américains ou autrichiens américanisés, pour certains, prend un sens tout à fait différent et un sens a fortiori totalement différent dans le cadre d'un libre-échange mondial, évidemment.
Vous avez souvent fait remarquer qu'on assiste à une pensée qui devient de plus en plus faible. Est-ce que c'est parce que pour avoir une pensée qui soit féconde, il lui faut véritablement un passé qui soit vivant et à l'œuvre et qui permette en même temps qu'on prenne de la distance par rapport à ce passé, c'est-à-dire qu'on s'en nourrisse pour pouvoir s'en détacher et produire du nouveau?
Question très compliquée. Parce que il faut aussi que, et il faut principalement, me semble-t-il, que cette pensée ait un point d'application dans le réel. Or, aujourd'hui, c'est pas que la pensée ne se nourrit pas du passé, elle fait que ça. Mais elle n'a aucun.
Pas dans la répétition.
Voilà. Prenons l'exemple tragique de la philosophie d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'exégèse, plus ou moins absurde en général, du passé de la philosophie. L'idée que tout ça pourrait avoir une quelconque actualité n'étant pas vraiment perçue. Donc, je crains au fond, une des raisons de la faiblesse de la pensée, c'est le fait qu'elle est absorbée par la patrimonialisation du passé. Et cette patrimonialisation implique la coupure du passé par rapport au présent. Donc, l'ineffectivité du passé dans le présent. Pourquoi on peut aimer ça. C'est un goût personnel parmi d'autres possibles. Mais c'est un hobby. C'est pas une tâche sérieuse. Voilà. Donc, vous voyez, il suffit pas de... Entre l'obsédé du passé qui veut à toute force que les nouvelles générations incorporent ce message et ces nouvelles générations qui voient franchement pas le rapport avec ce qui les concerne, il y a en fait symétrie et complémentarité. C'est notre problème.
Est-ce qu'on peut dire là tout de suite que c'est une pensée hors sol, une pensée dans l'absolu, donc qui tourne un peu sur elle-même?
Ben dans l'absolu, non, ça serait plutôt dans le relatif, le radical, parce que c'est une pensée en apesanteur.
En apesanteur
et plus exact, mesure. Oui, en apesanteur. Nous vivons une expérience tout à fait unique dans l'histoire humaine, l'expérience d'un passé que nous connaissons comme nous ne l'avons jamais connu, dont nous avons un extraordinaire appareil de conservation et qui ne nous dit rien.
Il est évident que le passé hésiodique n'a rien à voir avec le passé galiléen.
Pardon, le passé.
Le passé hésiodique ne nous sert à rien.
Ben oui. Hein. Mais Galilée ne nous sert à rien. Le passé galiléen, il est là, mais il ne nous sert à rien non plus.
Est-ce qu'il ne nous sert à rien? Parce que quand lui, il a mathématisé l'univers.
Oui, non, mais attends, entendons-nous sur le mot sert.
Oui.
Veut dire quoi,
hein?
Voilà. Non, que Galilée ait une lourde responsabilité opérationnelle dans le monde où nous vivons, ça me semble très difficile à nier, évidemment. Mais est-ce que ce passé, donc, nous en recueillons les fruits, et il y a une industrie muséographique autour de tout ce qui regarde les attestations du moment galiléen dans la science, qui est énorme, à juste titre. Mais est-ce que pour autant, ce passé nous parle? Non, nous savons qu'il est là, mais en tant que tel, il ne nous dit rien. Il est agissant, mais il n'est pas parlant. C'est pas pareil. Et personne ne songe à nier qu'il n'est pas agissant. Hein, ça, on est bien d'accord. Nous sommes dans un monde de la conscience historique, non pas effacée, mais démultipliée. Et une conscience historique démultipliée, le paradoxe, c'est qu'elle reconnaît l'action du passé, mais ne fait pas de ce passé quelque chose qu'elle ressent comme vivant. Il est ce derrière nous sur quoi nous nous reposons, mais nous pouvons vivre en l'ignorant entièrement. Un physicien ou un astrophysicien, ben, nous pourrons parler puisqu'il s'agit des yeux, à l'œuvre aujourd'hui, ne se vit pas comme un continuateur de Galilée. Accessoirement, ça peut l'intéresser de lire un livre ou deux sur le sujet par curiosité personnelle, mais c'est totalement indifférent. Il n'est pas dans une généalogie même scientifique.
Est-ce qu'il ne serait pas dans une généalogie de l'accélération du temps?
Si, bien sûr. Ah oui, à coup sûr. Enfin, de l'accélération. Oui, de l'attente investie dans le progrès de la connaissance. Oui, c'est pas forcément une accélération.
Ne ruine pas ce qu'on pourrait appeler la durée, puisque tu disais tout à l'heure justement que le présent est le rôle du passé et en même temps le rôle du futur. Donc il est incontestable qu'une accélération des découvertes, parce qu'en fait, pour revenir à Galilée, on dit il y a bien ce qui était anti-galiléen, puisque comme on dit anti-pasteurien, comment on a l'impression de changer de temps.
Mais plus exactement, l'acte élémentaire d'identification dans le temps de l'acteur historique d'aujourd'hui, c'est la position de l'autosuffisance du présent. C'est-à-dire, nous savons bien qu'il y a un... Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de réfléchir comme si ce passé n'était pas là sur qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est une attitude extraordinairement nouvelle. L'inverse de l'attitude qui était encore très récemment celle de nos ancêtres. Le présent, c'était la prise de conscience de ce que nous devons au passé et de ce qui se perpétuera de ce passé, quoi que nous fassions, quoi que quelques nouveautés que nous introduisions. Nous, nous postulons au contraire son évanouissement par principe.
Et si on changeait, de domaine, si vous avez parlé d'éducation, par exemple, Rousseau avait déjà prévu plus ou moins ce qu'il fallait assurer une continuité.
Enfin, c'est un cas très compliqué.
Émile est dans une fiction.
C'est,
il n'est pas dans la collectivisation de l'éducation.
Ah non, c'est le contraire absolu. Mais dans une philosophie très particulière de l'histoire, chez Rousseau, si tant est qu'on peut déjà parler de philosophie de l'histoire à son propos, qui est de faire en sorte qu'Émile grandisse, se développe, hors de l'influence corruptrice de la civilisation. C'est, donc ça permet des choses, vous voyez ce que je veux dire. L'éducation moderne, elle est anti-rousseauiste de part en part. C'est de ce point de vue, parce qu'elle est au contraire, et elle essaye de concilier des choses qui pour Rousseau ne pouvaient qu'être dissociées. Parce que nous avons retenu de Rousseau son aspiration individualiste radicale, mais dans une perspective qui est à l'opposé de celle de Rousseau. La perspective individualiste radicale de Rousseau était de sortir Émile de la civilisation. Et nous utilisons un individualisme radical pour faire pénétrer la civilisation à l'intérieur de l'élève. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes rousseauistes, oui, et anti-rousseauistes simultanément.
Nous ne croyons plus à Robinson Crusoe, c'était le seul livre, je crois, que Rousseau recommandait à l'élève.
Oui. Donc, il avait d'ailleurs un jugement nuancé, en fait. Oui. Parce qu'il trouvait que Robinson Crusoe, si je me souviens bien, ressemblait quand même, ce qu'il y avait de fâcheux, c'est que finalement, il refaisait tout comme s'il n'avait pas été tout seul. Donc, alors que normalement, ça devrait donner quelque chose, l'homme de la nature pleinement développé devrait donner autre chose que ce que nous connaissons.
Merci.
Cet arrachement au passé dont nous parlions à l'instant, cette déconnexion, en fait, si j'ai bien compris vos leçons, s'appuie sur le fait que le néolibéralisme se fonde sur la science, sur les sciences et les techniques, sur les sciences dures, hein, et que le domaine de l'histoire des sciences humaines a été désinvesti.
Il n'a pas été désinvesti, il a été satellisé, ce qui est très différent. Il y a une reconstruction en cours des sciences sociales et humaines sur le modèle mi-évolutionniste, mi-choix rationnel. Ben oui, non, c'est pas... Alors, attention à une expression qui me semble très dangereuse pour comprendre exactement la situation où nous sommes. Celle d'arrachement au passé. Il n'y a pas d'arrachement au passé. Arrachement au passé suppose la continuité ressentie avec le passé. Hein? Justement, il est oppressant, il est gênant, il est une entrave. Pas du tout. Il y a coupure avec le passé. C'est très différent. Tant qu'on est dans l'arrachement, on est dans la prégnance de quelque chose vis-à-vis duquel il s'agit de composer par un mélange de filtrage, de purification, de développement, de prolongement, enfin, tout ce qu'on veut. Là, c'est pas ça. Il n'y a plus aucun conflit avec le passé, si je puis dire. Ça, c'est la rançon de la consommation d'une détraditionnalisation complète. Le passé ne nous pèse plus. Nous sommes libres vis-à-vis de lui, il est à distance de nous. Il n'y a pas besoin de s'énerver contre. Justement, prenons juste l'exemple de l'art contemporain que j'évoquais tout à l'heure. C'est tout à fait significatif. L'art du XXe siècle a été un art de la rupture, un art de la déconstruction, un art de la remise en question des codes esthétiques du passé. Là, on est toujours à l'intérieur de la continuité avec le passé, mais continuité vécue comme quelque chose à défaire, comme une prégnance à détruire. L'art contemporain, il a une visée, on a eu l'occasion d'en parler par le passé, complètement différente. Il vise l'extraterritorialité par rapport au passé. Il n'est pas polémique. Éventuellement même, d'ailleurs, il recycle, reprend dans toute liberté des codes esthétiques parfaitement classiques, mais pour aller ailleurs. Nous sommes sortis de l'âge polémique de l'art qui a été la caractéristique justement de l'art. De l'art du XXe siècle et son association par le biais de l'avant-garde à l'idée révolutionnaire, c'est-à-dire la rupture avec le passé qui est en même temps un accomplissement du passé. On n'est plus du tout là-dedans. C'est là que qu'est la discontinuité de l'art contemporain.
Oui, ce que vous venez de dire sur la médiatisation du présent, ça m'a rappelé un peu un passage de Frederick Jameson que je dois citer en anglais, mais il distingue deux manières de regarder l'histoire. Il parle de historical underdosing, which is the idea to live in a period of time where nothing seems to happen. Major symptoms include addiction to newspapers, magazines, and TV news broadcasts, and historical overdosing, which is to live in a period of time where too much seems to happen, and the symptoms are the same, an addiction to newspapers, magazines, and TV broadcasts. Et ce passage est cité dans un livre de Hartmut Rosa sur l'accélération sociale, une nouvelle théorie de la modernité. Il me semble que, pas seulement au niveau de la médiatisation du présent, mais plus généralement, la contradiction que vous suggérez entre une crise de l'avenir et une radicalisation de l'orientation historique retombe un peu à la même chose que décrit Rosa. Et je me demandais donc qu'est-ce que vous pensez de son livre et si vous considérez le concept d'accélération structurelle de la technique, du travail, du rythme de vie comme un facteur explicatif principal pour comprendre notre attitude envers l'histoire.
Il y a beaucoup de choses intéressantes dans le livre de Rosa. Son thème exact, c'est l'accélération du temps, qui est une notion pas simple à saisir, parce que généralement, pour nous, le temps est neutre. Sa définition, c'est l'identité de tous ces moments. Bon, donc, il essaye, évidemment, c'est de quel temps s'agit-il, tout est là. Alors, mais moi, ma critique fondamentale, si vous voulez, par rapport à tout ce genre de thème, c'est la critique de la notion d'accélération, qui me semble objectivement juste, je dirais, qui peut nier, mais qui empêche de saisir ce qui fait le ressort de cette accélération. Parce qu'elle devient du coup une espèce de donnée. C'est bizarre, ça accélère, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais il n'y a aucun mystère, on sait très bien pourquoi, en fait. On peut très bien savoir, on n'est pas obligé de le savoir. Mais il est possible de le savoir. C'est pas l'accélération, c'est le rapport interne à de la démarche d'invention. Donc, elle est nécessairement cumulative. Et ça, on peut le montrer. Donc, le mot d'accélération ne saisit que l'expression extérieure de ce phénomène. Moi, ce qui me semble intéressant, si on veut en comprendre tous les effets et la provenance aussi, c'est d'en saisir la dynamique. D'où vient cette accélération? C'est pas une donnée magique, bizarre, qui serait le propre de la modernité. Elle a des raisons très profondes et des raisons... C'est ce qu'on essaiera de voir plus précisément, justement à propos de la médiatisation, qui permettent de saisir aussi les limites sur lesquelles elle bute. Parce que, en bonne logique, dans la perspective d'Hartmut Rosa, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc c'est comme l'expansion de l'univers, qui est quelque chose qu'on a un peu de mal à concevoir malgré tout, quand on y réfléchit sérieusement, même si les équations, les observations sont impeccables. Non, c'est une, bah oui, c'est un fait physique, une explosion qui se poursuit. Il n'y a pas d'explosion de la modernité en expansion, mais il y a un rapport interne à l'existant en fonction d'une visée bien précise. Ce qui fait que cette accélération poursuit un but assez déterminé, à mon sens, qu'il est très important d'identifier. C'est ce qu'on essaiera de voir, justement. Donc, je crois qu'il faut se mettre face à la notion d'accélération, être très prudent, parce qu'elle est très forte descriptivement, et elle est très faible explicativement. Elle est même un renoncement à l'explication. Je crois que c'est pour ça qu'elle n'est pas la notion idéale pour saisir ce dont nous parlons.
Qui a besoin de paroles d'encouragement pour lui permettre d'être trop lucide tout de même.
Alors,
en admettant qu'il n'ait pas lu votre livre, transmettre et
apprendre. Donc, vous partez sur des chapeaux de roue en disant, en gros, je ne me défile pas devant la question, mais je vous fais observer que vous avez dit, s'il veut faire son métier, il ne faut pas qu'il soit trop lucide. C'est une manière de former les enseignants comme une autre. C'est foncer dans le brouillard et ne vous posez pas de questions, surtout parce que ça serait fatal. Je suis convaincu du contraire. Je crois qu'il faut, je crois qu'il faut plus de lucidité, justement.
Un discours de vérité.
Ben oui. Et si on ne part pas du constat et de l'analyse de ce qui fait qu'un type d'histoire qui a très bien fonctionné, qui a été même quelque chose, un élément essentiel de la formation classique des citoyens en Europe, c'est très européen, faut bien se rendre compte de ça, ne fonctionne plus, si on ne part pas de là, justement, on envoie les gens au désespoir. On les voue à une tâche impossible, parce qu'on a d'un côté des instructions officielles qui, en gros, disent « vous devez tout savoir », et des élèves qui ne représentent pas le terreau le plus fertile pour accueillir ce message, et pour des raisons qui les dépassent. Qui n'ont rien d'individuel, qui relèvent d'un changement très profond, à mon avis, dans ce qu'est l'objet de l'enseignement de l'histoire et les attentes collectives qu'on peut investir dedans. L'enseignement de l'histoire, tel qu'il a été conçu et continue de fonctionner, c'est en fait une généalogie collective. Il s'agit de donner aux jeunes le sentiment du lien organique avec la collectivité à l'intérieur duquel ils s'insèrent et au passage dans laquelle ils ont dans tous les cas à s'insérer. Tout le monde connaît la blague polémique et en première vue très sensée sur le fait qu'on apprenait aux petits Africains, nos ancêtres, les Gaulois, à la belle époque de la colonisation française. Évidemment, à première vue, c'est totalement absurde, mais à vue plus profonde, c'est très sensé. Et c'est exactement la chose que nous retrouvons aujourd'hui avec les petits immigrés qui sont sur notre sol. Le problème, c'est pas justement le fait qu'ils sont pas, ils ne relèvent pas de la même histoire, c'est que c'est l'histoire dans laquelle ils ont à s'insérer. C'est le pas est le même. De ce point de vue-là, il n'y a aucune différence. Il y a un cafouillage complet sur ce point. Mais simplement, cette dimension généalogique s'est effacée. Elle n'est plus opérante. elle fonctionnait de manière automatique. Parce que le principe généalogique était structurant pour la vie sociale tout entière. Il s'exprimait dans la conscience de classe la plus rouge, aussi bien que dans le sentiment aristocratique de la lignée la plus réactionnaire. C'était le même, sous des jours différents. Il n'est plus là. Donc, c'est de là qu'il faut partir. Ça veut dire, et ça veut dire, à mon sens, l'objectif de l'enseignement de l'histoire est forcément très différent de celui qu'il a pu être par le passé. Bon, à part ça, je ne me fais pas d'idée, parce que ce que je sais, pour avoir eu quelques occasions d'en discuter, c'est que la communauté des historiens et des professeurs d'histoire n'est pas très prête à entendre ce discours et qu'elle se bat d'une façon désespérée pour maintenir un cadre qui est mort. Donc, c'est un peu dur pour elle. Je les plains sincèrement, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je ne connais que lui, mais vous voyez, je vieillis dangereusement apparemment. Le vient de paraître un livre extrêmement intéressant, parce que d'un esprit de très grande bonne volonté, sur ce que peut être la réflexion de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Mais c'est désespérant, parce qu'on voit que ce sont des palliatifs qui ne répondent à rien des problèmes de fond. Ne serait-ce que sur un plan très simple, même si on veut répondre à l'exigence identitaire qui passait par la généalogie, aujourd'hui l'exigence identitaire ne passe plus par la généalogie. C'est plus par le récit d'une lignée, quelle qu'elle soit, c'est pas le récit des ancêtres qui communique une identité, c'est le rattachement délibéré à une source, ce qui est très différent. Bon. Toute la manière de concevoir, même techniquement, cet enseignement est frappée de nullité. Je crois qu'on ne coupera pas un réexamen essentiel des finalités de l'enseignement de l'histoire. Que voulons-nous communiquer? À quel besoin peut répondre un enseignement de l'histoire aujourd'hui? Si on ne repense pas ça...
Donc ce n'est pas un métier d'avenir, professeur.
Mais si. Mais si. Mais si. Mais dans un cadre profondément repensé.
Il n'est pas encore repensé.
Non, il n'est pas. Mais ça viendra, vous savez.